contributions. Avec le soutien, les contributions des membres du comité scientifique des projets pour coordonner la recherche pour l'écriture de scénarios. Parmi vos réalisations visuelles, je citerai Masao Reo à la mémoire de la recherche, Terra Incognita, la traversée vers une terre inconnue, Amazonas Mia, Orchidée de Colombie, sur les pas de Rouvol et Bonplan, Lumière d'Orchidée, entre autres. Et je tiens également à signaler que vous avez souhaité, ce qui va évidemment faire plaisir à mes confrères et consoeurs musiciens présents, avoir un violoniste Louis Oumar qui, tout d'un coup, intervienne. Et évidemment, je le salue fraternellement. Chère madame, je vous laisse la parole.
Merci, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui parmi vous, les membres de l'Académie des sciences. Les membres de l'Académie des Beaux-Arts, Madame de Rombolt, merci d'être venue, à tous, chers amis et collègues. Aujourd'hui, je vais rapidement vous parler de Rombolt, puisque une heure n'est pas assez pour parler de cette vie extraordinaire, comme plusieurs de ses contemporains qui nous entourent, François Arago, Guy Lussac. Donc j'essaierai d'être concise et j'irai à certains passages de sa vie qui m'ont émue et m'ont touchée pour ce projet des orchidées dont je vous parlerai à la fin. La présentation que je vais faire aujourd'hui est un projet singulier qui porte dans son titre le mot du hasard, car le hasard est une notion incontournable du voyage américain vers le centre de Rombolt. Et c'est une notion qu'il a acceptée comme une donnée inestimable dans son vie. Cette conférence se tient dans la prolongation des événements qui sont organisés à l'Institut de France à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de ce grand homme. Rombolt a été élu membre étranger à l'Académie des sciences en 1810 au fauteuil de Henry Cavendish. Et à ce titre, nous avons co-organisé une journée d'études franco-allemandes le vendredi dernier, ensemble avec la bibliothèque de l'Institut de France, avec le parrainage de l'Académie des sciences, le soutien de l'Institut historique allemand et la DAAE. Nous avons également organisé une visite guidée dans Paris, qui a été commentée par le commissaire de l'exposition des frères Rombolt, David Blankenstein. Cette belle exposition a déjà été présentée à l'Observatoire de Paris, où a régné François Arago, qui était un des plus grands amis de Rombolt, et l'exposition ouvrira ses portes bientôt à Berlin. Donc, cette exposition parlera aussi de Wilhelm, qui est le frère aîné de Alexandre, et qui ont eu une relation très étroite. Les deux ont laissé une trace dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des Lumières. Wilhelm a signé le traité de Vienne en 1815 et c'était un grand linguiste également. Je tiens à le mentionner puisque Madame Rombolt nous accompagne. Ma communication se compose donc de deux parties. Une première partie portant sur le voyage américain de Rombolt et de son compagnon français Aimé Bonplan, en lien avec l'exposition de manuscrits et des ouvrages publiés par Rombolt et qui sont présentés par la bibliothèque de l'Institut de France jusqu'au 13 décembre à cet étage. Quand vous sortirez dans les vitrines, vous pourrez les voir. La deuxième partie de mon intervention portera sur la présentation d'une sélection de poèmes que j'ai écrit lors d'une mission de terrain en Colombie qui s'est intitulée « Orchidées de Colombie sur les pas de Rombolt et Bonplan ». Cette mission a été organisée pendant les saisons croisées France-Colombie en 2017 et a été organisée avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Je salue mes confrères du muséum. Elle a reçu le soutien des deux gouvernements et celui de la Banque colombienne Davivienda. Notre mission fut également touchée par le hasard de la vie, comme je vous l'expliquerai plus tard, ultérieurement. La communication. Donc, le hasard, toujours présent lors du voyage américain d'Alexandre de Rombolt. Alexandre de Rombolt est ici représenté. Merci. Alexandre de Rombolt est ici représenté par le baron Gérard, qui était son ami à Paris. Il était aussi son professeur de dessin. Et Rombolt, ici, il est très jeune. Il est parti en Amérique quand il avait 30 ans. Mais avant, à 21 ans, il avait déjà été nommé directeur des mines de Fribourg en Allemagne. Il est né donc à Tegel, à Berlin, tout près de Berlin, d'une famille composée d'un père prussien qui s'appelle Leroy et d'une maman protestante, d'une mère protestante française, d'origine française, qui portait le nom de Colomb, comme l'amiral qui a découvert l'Amérique en 1492. Son lien avec Paris est double. Donc j'ai essayé de déjà dénoncer le lien entre les arts et les sciences qui a uni Humboldt dans cet esprit des Lumières. Sa relation avec Paris est donc se fait très très vite depuis l'âge de 21 ans, puisqu'au moment du décès de son père, son père décède quand il a 9 ans, et quand sa mère meurt, quand il a 21 ans, il quitte l'Allemagne et vient s'installer à Paris, parce qu'il a envie de faire un voyage autour du monde. Parmi les personnes qui ont touché son enfance et son adolescence, nous avons Wildenau, qui est son contemporain, qui est devenu plus tard le directeur du musée du jardin botanique de Berlin, et Georg Forster, l'écrivain botaniste et révolutionnaire qui était parti avec Thomas Cook pendant le voyage autour du monde. Georg Forster a beaucoup influencé Alexandre de Humboldt, non seulement dans l'amour des plantes, mais dans l'amour des voyages dans des pays lointains. À Paris, Humboldt essaye donc de suivre ce chemin naturaliste qui a été aussi touché par un grand écrivain et chef du romantisme allemand, Goethe, et qui l'a aussi influencé. Humboldt aura aussi une influence sur Goethe plus tard, comme nous le verrons. Les idées républicaines façonnent aussi sa pensée et est un grand philosophe, donc je le vois de cette façon-là, Jean-Jacques Rousseau, qui va toucher Humboldt et qui le citera aussi dans ses écrits par la suite. Finalement, le hasard fait que Humboldt, malgré ce désir de partir en Égypte avec le général Bonaparte, ou dans l'expédition du capitaine Bodin, puisse pas se joindre à cette mission et plutôt va partir pour l'Amérique avec Aimé Bonpland en 1799. Ce voyage va durer 5 ans et ils vont être donc protégés par le roi Charles IV d'Espagne et vont pouvoir visiter toutes les colonies et les provinces en Amérique sous cette protection. Le premier arrêt va être Tenerife, aux Canaries. Et c'est ici, dans cette île, au moment où il va arpenter le volcan Teide, que Humboldt va poser toutes les lignes de ses recherches qui vont fonder la phytogéographie, la géographie des plantes. En arpentant le Teide, Humboldt va remarquer que les plantes vont se situé à différentes altitudes dans cette falaise, et en étudiant le cratère, puisqu'il était vulcanologue et minéralogue de formation, il va se rendre compte d'apercevoir de certaines lois de la création géologique de ce monde. Humboldt introduit ici la notion de la tridimensionnalité qui prend en compte le lieu, l'altitude et le climat. C'est donc ici, à Tenerife, où Humboldt rencontre aussi l'amiral Colomb et ses écrits, ses transcriptions sur la nature qui vont tant émouvoir et qu'il va retranscrire dans un ouvrage plus tard qui s'appelle « L'examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent et des progrès de l'astronomie nautique au XVe et XVIe siècle ». En arrivant à Cumaná, aussi par un coup d'hasard, parce que normalement il devait se rendre à Cuba, mais ils vont amarrer plutôt au Venezuela, il rencontre la société coloniale et d'emblée va s'enfoncer dans la jungle amazonienne. Il va donc essayer de vérifier l'existence d'un canal qui avait été décrit par Sir Walter au XVIe et XVIIe siècle. C'était le Cassiquiare. Le Cassiquiare, comme nous le voyons de la main de Humboldt, existe pour de vrai. Et c'est lui qui va prendre toutes les mesures astronomiques et qui va retranscrire cette magnifique carte qui se trouve conservée à la Bibliothèque nationale de France. Donc, nous voyons ici, donc ça c'est le bras du Cassicale qui réunit le Rénoque et le Rio Negro. Dans ce carte et dans ces schémas, il va écrire non seulement les noms des peuples rencontrés, des divers fleuves et affluents de l'Amazone, mais il va aussi laisser des impressions sur son voyage. Et il le fera tout au long de ses croquis, tout au long de ses relevés et tout au long de son carnet de voyage. Voilà les cataractes de l'Orénoque. Photo. Il va poursuivre son voyage à Cuba, ensuite à Carthagène, et la raison pour laquelle il va se rendre en Colombie, c'est la Nouvelle-Grenade à ce moment-là, c'est pour rencontrer un grand botaniste espagnol qui s'appelle José Celestino Montis. José Celestino Montis est un médecin, le médecin du choix de la Selva. Il est l'enseignant principal de botanique, de médecine, de minéralogie et d'astronomie. Il va, José Celestino Montis, fonder un laboratoire scientifique et un atelier de peinture pour reproduire fidèlement les plantes étudiées. C'est cet atelier que Humboldt tient à voir et il écrira à son frère. Le désir de voir le grand botaniste José Celestino Montis, ami de Linné, qui réside à Santa Fe de Bogota et de comparer nos herbiers avec le sien, ainsi que le défi d'escalader l'immense cordillère des Andes. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'entreprendre la voie terrestre vers Quito, plus loin de Santa Fe et de Popayán, au lieu de prendre la voie maritime de Portobello, Panama et Guayaquil. Il va continuer donc ce voyage à la recherche de ce volcan qui est longtemps, et qu'il va affronter. Donc il arrive à Quito. À Quito, il va, à ce moment-là, affronter l'altitude la plus élevée, qui est le Chimborazo, à ce moment qui est connu. Donc il va aller jusqu'à 5600 mètres d'altitude, et il écrira sur cette falaise, non seulement les plantes, donc les noms des plantes sont écrits ici à gauche, sur la falaise, tous les plants qu'il a pu voir, cueillir et herboriser. Mais ici à droite, il va écrire. Les voyageurs ont commencé à saigner des yeux, des lèvres et des gencives. Une crevasse empêcha les voyageurs d'atteindre la cime. Il quitte Lima, l'équateur pour arriver donc à Lima où là, ils vont voir passer le Mercure devant, Mercure devant le Soleil. À Lima, ils vont visiter les ruines des peuples incas et des cultures amérindiennes encore sur place. Au Pérou, en observant l'Inga Chungana, il va faire une citation à Rousseau qui ne quitte pas l'esprit et il dira « En rentrant dans l'enceinte ovale, on voit qu'il y a un siège qui est placé d'une manière très commode et qui jouit de la vue la plus délicieuse sur le fond de la vallée de Boulang, une petite rivière qui serpente cette vallée et forme plusieurs cascades dont on aperçoit l'écume à travers des touffes de bonella et de mélastone. Ce sont des plantes. Ce siège rustique ornerait les jardins d'Herménonville et de Richemont. Et le prince qui avait choisi ce site n'était pas insensible aux beautés de la nature. Il appartenait à un peuple que nous n'avons pas le droit de nommer barbare. À ce titre, Humboldt se situe comme le père de l'américanisme, un des premiers ethnologues et anthropologues. En Mexique, en Nouvelle-Espagne, donc, il va étudier les codex. Et ça va être le premier à avoir identifié ces œuvres comme des œuvres d'art. Et il va essayer de comprendre, souvent avec quelques erreurs, mais quelquefois très justement, l'interprétation des idiogrammes et de l'écriture aztèque et maya. Il va aussi les comparer plus tard, au retour en Europe, avec les hiéroglyphes étudiés par Champollion. Avant de rentrer dans le vif du sujet des orchidées, je termine par citer deux œuvres qui ont été écrites par Humboldt, qui sont à caractère politique et qui deviennent aussi une critique de l'esclavage transatlantique, duquel je ne pourrais pas partir d'ici sans mentionner sa lutte qui a abouti grâce à Wilhelm pour l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire il a écrit l'essai politique de sur l'île de Cuba et l'essai politique de la nouvelle Espagne. Il va parler de toute cette richesse, mais aussi de les plantations sucrières à Cuba. Donc, notre mission en Colombie a été organisée avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et éloigné de tous ces sujets très scientifiques, nous nous sommes plutôt penchés pour les orchidées. Humboldt a ramené ou a envoyé, puisqu'il a envoyé trois herbiers, un qui se trouve à Madrid, un à Paris, l'autre à Berlin, de 6000 nouvelles espèces, pas nouvelles espèces, de 6000 spécimens, dont 20 nouvelles espèces d'orchidées que nous avons pu retrouver en Colombie. Ici, une petite anecdote. Donc, on voit quand il arrive en Colombie, dans le nord, à Tobago, il va voir ces volcans qui expulsent de l'eau, de la vapeur. Et il va passer beaucoup d'heures et beaucoup de temps à les décrire et à les étudier. Voilà nos orchidées. Ici, une planche de l'atelier de Moutis, dont je viens de vous parler. Elles se trouvent toutes au Jardín Botánico, à la Jardín Botánico de Madrid. Humboldt, donc cet amour des plantes, cet engouement pour les plantes, pour recueillir des spécimens, il va aussi l'expliquer dans une lettre, parce qu'il considère que c'est la façon dont on peut comprendre la diversité présente des êtres vivants sur cette planète. Et il va émettre dans sa théorie de la phytogéographie ou la géographie des plantes, cette diversité qui existe à tous les niveaux sur la planète. Il va, à ce titre-là, être un des fondateurs aussi de l'écologie, à plusieurs niveaux, même s'il n'était pas conscient de ce qu'il était en train de forger à ce moment-là, et qu'il y a d'autres personnes plus pertinentes pour l'écologie, mais tous ces bases qu'il commence à poser sur la coexistence et l'interpénétration des êtres vivants et non vivants sur la planète forment un tout. Et donc il a très peur de perdre ces plantes qu'il a herborisées. Il va écrire à Leuvenin, le directeur de Berlin, du jardin botanique de Berlin, dans un moment où la mer pullule de pirates, où l'on respecte aussi peu les passeports que les navires neutres, rien ne me préoccupe dans mon voyage autour du monde aussi obstinément que de sauver mes manuscrits et mes herbiers. Et c'est pour ça qu'il va commencer à faire des impressions comme des duplicats de son herbier. Donc là, c'est des herbiers qui sont conservés à l'Herbier national de France, au Jardin des plantes, des gravures sur la différente diversité des plantes selon l'altitude au niveau de la mer, les chemins qu'ils ont empruntés, qu'il a pu façonner autour de ces cordillères, la façon dont les gens se faisaient porter dans ces cordillères, donc à deux bords, Los Cargueros, qu'il a refusé de se faire porter, les latitudes qu'il a visitées, les endroits où il a pu herboriser, et les impressions qui sont présentées dans l'exposition sur le manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de l'Institut de France. Donc, je vous laisse admirer la beauté de ces objets, de ces planches qui n'avaient que comme but de préserver ce trésor qu'il avait herborisé et qui en soi-même sont des objets apparus. La technique. Donc la technique, on l'a pu retracer jusqu'à Léonard da Vinci dans son côté de Sacramentus où il avait fait une impression de la sauge, de palme, et où il avait écrit les vertus de cette plante. Donc c'est une technique qui vient de Florence, qui a passé après en Allemagne et en France. Et ici, une planche donc, de l'herbier national aussi, mais des fonds Jussieu cette fois-ci. Donc, on va l'envoyer à Jussieu pour montrer sa technique et la façon dont il avait fait cette planche. On voit bien l'encre noire et il a aussi écrit en bas, là, ici à droite, que cette planche est noircie à cause de l'encre qui a servi pour créer les impressions. La méthodologie de travail, c'est Kunt, le neveu de son précepteur berlinois, qui va réaliser tout le travail éditorial à partir de ces cahiers qui sont tenus par Aimé Bonpland, qu'on voit ici à gauche, les notes, les herbiers, qui ont été aussi méthodiquement tenus par Humboldt, et la comparaison des collections vivantes qui en ce moment existaient notamment à la même maison, puisque Joséphine était une grande adepte des orchidées, et les résultats. Donc, vous pouvez observer ces publications à l'extérieur. Un petit mot sur Benjamin Delefer, qui était donc le propriétaire de ce fonds, qui avait commencé avec les 8 lettres sur les herbiers que Rousseau a écrit à Mademoiselle Delefer et qui appartenait donc à la maman de Benjamin Delefer, à la mère de Benjamin Delefer. Ils étaient aussi des protestants venus aussi de la Suisse, installés à Lyon. Voici donc les 8 lettres de Rousseau qui ont commencé le noyau Delefer. Et donc ces lettres de Rousseau ont cohabité avec le manuscrit des impressions de plantes. Voilà les orchidées, les magnifiques résultats qui ont eu lieu grâce à Jean-François Turpin, le graveur et dessinateur de ces orchidées. Ici, quelques exemples des orchidées des nouvelles espèces. Donc, nous avons présenté le manuscrit à l'extérieur. Et je vous parle ici de Charles Darwin, parce que Charles Darwin, s'il est parti dans le Beagle, c'est parce qu'il a beaucoup lu Alexandre de Humboldt, il s'est beaucoup inspiré. Et il a étudié dans sa théorie de l'évolution toute la façon dont les orchidées sont fécondées. Et à ce titre, il a dédié un nouveau chapitre. Donc encore Humboldt qui nous laisse des traces. Les endroits où ils ont recueilli ces orchidées, ce magnifique pan naturel qu'il a décrit, avec des oiseaux, le chant des oiseaux qu'il va aussi décrire dans son journal scientifique, et encore des orchidées. Voilà, toutes les orchidées qu'on a pu voir pendant notre mission. Je ne rentrerai pas dans les détails des familles, tous les aspects scientifiques. Mais c'est surtout pour vous montrer sur cet arbre, le caracoli, Humboldt est un émouvant témoignage sur la signification que les Amérindiens portent. Ici, nous sommes à 3000 mètres d'altitude, au Paramos, et nous avons vu, dans une, entre guillemets, balade que nous avons fait de 3 heures, 80 orchidées. Juste une petite sélection. Humboldt, déjà, il va nous parler du Paramos, de l'importance de ces hautes montagnes et froides où l'eau émerge de l'intérieur de la Terre et qui sont fondamentales aujourd'hui pour les écosystèmes et la conservation de notre planète. Ici, un clin d'œil à Goethe aussi. Donc, c'est un dessin qu'il a dédié à Humboldt sur cette notion des différentes altitudes et la cohabitation des différents êtres ensemble. Elles vont dédier à M. Humboldt, à M. Donc, l'essai sur la géographie des plantes qui a été lu ici à l'Académie des sciences, qui a été dédié à Antoine Laurent de Jussieu, qui est René Desfontaines, professeur de Muséum et membre de l'Institut. Encore Goethe sur sa métamorphose de plantes. Je vais terminer mon exposé par une petite définition de cosmos, selon, je dis petite, une définition de cosmos par Humboldt, qui nous dit que tout le monde matériel, tout ce que nous savons aujourd'hui, des phénomènes des cieux et de la terre, Depuis les nébuloses jusqu'à la géographie de la mousse qui croît sur les rochers de granit, voilà ce que j'ai d'extravagante pensée de concentrer dans un seul ouvrage et encore dans un ouvrage qui, pour la vivacité de la forme, captive l'esprit et le cœur. Voilà, les petites abeilles.
D'abord, je suis certain qu'avec notamment toutes les incroyables gravures qu'on a vues, notre cher Éric de Mazières aura des réflexions à vous faire. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une démarche incroyablement moderne chez cet homme? Parce que ces questions qu'on se pose actuellement sur le rapport entre la nature et la politique, la nature et la société, en termes de ces voyages, finalement, il y a évidemment cette incroyable érudition, mais il semble qu'une dimension très importante, une résultante très importante de son travail, soit quand même des prises de position sociales qu'il a eues.
Tout à fait. Et c'est grâce à cette influence avec la Révolution française, ce parti pris toute sa vie à la cour de Berlin, il était protégé par le roi, il avait sa chambre dans le château. En 1927, il est retourné à Berlin, mais on l'appelait le Jacobin de la cour. Donc toute sa vie, il a été un homme politique, un scientifique.
C'est un homme qui avait conscience de sa force. Parce que vous savez qu'on raconte, puisque vous citez Goethe, on raconte toujours cette histoire que les musiciens connaissent bien, de Goethe se promenant avec Beethoven dans le jardin et croisant la famille impériale, et Goethe salue la famille impériale, Beethoven ne le fait pas, et Goethe racontera que quand il a demandé à Beethoven pourquoi il ne l'a pas fait, Beethoven a répondu « Le génie, c'est moi ». Donc, je ne sais pas si ça c'était un peu compliqué à faire maintenant, mais non. Cher Éric, tu veux nous faire un commentaire sur ces gravures et la technique qu'elles ont représentées et tout ça, parce qu'on est très impressionnés. Ah, il y a une deuxième partie. Ah ben, vous allez d'abord nous faire la deuxième partie, évidemment, parce qu'on a notre musicien qu'on n'a pas encore entendu, et puis Eric se fera un plaisir en chine.
Alors, voilà, donc nous avons terminé par cette belle esquisse du baron Gérard, qui était donc une allégorie de Mercure et Minerve rendant hommage à l'Amérique. Et je voudrais simplement dire, après cette lecture, que la définition de cosmos, selon Humboldt, donc, quand il s'est apprêté à publier sa dernière œuvre, Cosmos était une description physique du monde, nous pouvons constater que sa vision du monde demeure jusqu'à la fin de sa vie matérialiste, basée sur l'étude des phénomènes et des lois qui gouvernent le monde naturel. Il se revendiquera athée tout en prenant la tolérance de toutes les pratiques religieuses et culturelles. Il sera toujours un homme des Lumières, dont la seule vraie passion fut l'amour des sciences. Quand je préparais la mission scientifique et artistique que j'ai co-organisée en Colombie avec le Muséum national d'histoire naturelle, le hasard joua aussi un rôle dans ma vie à double titre. En octobre 2016, 15 ans après avoir reçu la bague du muséum pour mettre en place la mission de terrain, je recevais la nouvelle que ma mère, atteinte d'un cancer du poumon, devait nous quitter sous peu. La deuxième coïncidence fut que le trajet emprunté par Humboldt et Montblanc en Colombie correspondait à celui que j'empruntais pendant mon enfance avec ma mère tous les week-ends pour aller dans la maison de mes grands-parents. Je n'avais pas fait cette route depuis une vingtaine d'années. Voilà qui la troisième coïncidence, c'est que j'étais donc partie de la Colombie en 1993 pour un périple artistique qui a commencé chez M. Guy et Mme Anne-Marie de Rougemont à Marseille-Largue. Je profite pour remercier ici M. de Rougemont de m'avoir invité parmi vous. Il n'a pas pu retourner de Marseillard aujourd'hui, mais je rappelle aussi que M. de Rougemont occupe à l'Académie des Beaux-Arts le fauteuil qu'il y a 200 ans, l'ami de Humboldt, le baron Gérard, occupait. Voilà la troisième coïncidence que je voulais vous parler aujourd'hui. Ces poèmes furent écrits pendant la mission de terrain en Colombie, après avoir accompagné ma mère dans sa maladie. La recherche que j'avais faite pour la mission d'Orchidée sur l'état de Humboldt et Montblanc prit alors totalement une autre tournure dans mon esprit. C'est pourquoi cet ouvrage a vu le jour comme une nécessité de l'esprit. Je vais donc vous présenter une sélection de ces poèmes qui peuvent sembler peut-être un peu éloignés de la vision du cosmos de Humboldt, c'est-à-dire de sa propre vision du monde. Mais les théories d'autres savants que Humboldt étudia et donc que j'ai dû étudier moi-même dans le cadre de ce projet, telles que celles émises par Linné sur la sexualité des orchidées, ou bien les théories de Goethe portant sur la métamorphose et la morphologie des plantes, toutes ces théories m'ont beaucoup inspirée pendant le temps de ma préparation de la mission en Colombie. Mais il y avait aussi les lectures de Charles Darwin, à qui Humboldt avait touché. Celui-ci a écrit sa théorie de l'évolution dans laquelle il a dédié un chapitre à part aux mécanismes employés par les agents pollinisateurs dans la reproduction des orchidées. Darwin s'est intéressé particulièrement à la famille des catasetumes, qui ont, telles, la particularité d'avoir deux sexes et qui font un choix au moment de leur procréation. Nous voilà au cœur du sujet, les orchidées. Celles-ci furent pour moi une source métaphorique sur la vie et la mort, la reproduction et les raisons de notre existence sur cette terre. Ce qui m'a plus touché de la sexualité des orchidées, c'est qu'au XIXe siècle, on ne savait pas comment elles se reproduisaient. Elles étaient alors considérées comme des pièces uniques, comme des vrais joyaux de la nature. C'est pour cette raison que l'impératrice Joséphine et plus tard Eugénie, qui possédaient des collections de plantes tropicales hors pair, ont embauché des chasseurs d'orchidées pour enrichir leur sphère tropicale et que des maisons aussi prestigieuses que Guerlain et Cartier en firent une école. Quant à la vie de Humboldt, ce qui m'a plus touchée, hormis sa rapidité et son génie créateur, furent son enfance, son adolescence, touchée par la perte de son père, et une relation assez froide et distante qu'il a toujours décrite avec sa mère, en plus de tout son voyage, son besoin de voyage. Sa capacité de vivre sa singularité créatrice, sa sexualité inclue, au sein d'une société conservatrice comme celle du royaume de Prusse. C'est aussi pour ça que la science et Paris firent pour lui un grand berceau ou un foyer. Sans plus tarder, je vais lire ces poèmes qui évoquent à ma manière toutes ces lectures et recherches qui se sont confondues dans mon esprit pendant l'année des croisées France-Colombie. Je remercie Louis d'être ici à mes côtés.
Gagner les altitudes du
Chine et Amazon. En évitant les observations de sa théorie, nourrie d'autres lectures, Humboldt n'a fait que suivre son intuition sur la portée de l'altitude par rapport au niveau de l'océan pour définir sa nouvelle science, la phytogéographie.
Thank you.
métamorphose des plantes aveugles. De la métamorphose des plantes et des choses métaphysiques peuvent alors m'en parler, ainsi que de l'amour de ses revers. Connaissent-elles le sens de ces mots, les orchidées dionysiaques? Ont-elles besoin de l'amour pour enfin se transformer en quelque chose d'autre? Ont-elles besoin de la parole divine, comme les apôtres, pour abandonner leur vie païenne et suivre leur destin? Saint-Pierre, a-t-il eu le choix de suivre les commandements? Saint-Paul, de se convertir après sa chute? Saint-Inigo, de tout abandonner pour prêcher auprès des incrédules? Et Sor Juana Inés, d'écrire ses visions? Les métamorphoses des êtres vivants ne résident-elles pas dans l'incertitude? Que dans la forêt, la montagne ou le désert, en tout cas en solitude, la quête vers la lumière demande un silence rayonnant. De cette même lumière, solaire ou lunaire, naissent les esprits les plus puissants. Qu'après avoir cherché au-delà des rayons, comprennent enfin, au moment même de leur métamorphose, que leur quête n'est autre chose que la lumière. Sur la lumière, Lucia. En quête d'amour, lumière dans ma vie, projection d'ombre sur un mur d'adobe, le matin au lever du soleil. La douceur de ta main sur ma joue me réveille, tes lèvres prononcent mon nom, ta voix me ramène dans cet instant de vie qu'est le réveil. Des rayons lumineux filtrent à travers la moustiquaire. J'ouvre les yeux, mais je suis seule. Dans mon rêve, je poussais une barque dans laquelle ton corps reposait. Je nageais dans une eau cristalline. Les ondes provoquées par le battement de mes jambes, l'eau glacée pénétrant dans mes pores, ton regard apeuré se raccroche à mon sourire. Je ne te quitte plus de regard, alors que derrière toi le soleil, couchant, va t'accueillir. Comme dans un accouchement, je sais que le labeur doit être fait par celle qui accouche. Je sais là que je dois lâcher la barque, la guider pour qu'elle suive bien le courant qui mène au zénith. Te regarder partir, toi, qui m'a donné la vie, ne plus entendre ton souffle, ni ta voix, ni ton cœur battre. Je garde le sourire et te suis du regard, car je sais que cela te rassure, et je reste forte pour toi, maman, comme celle qui accouche d'un mort-né. Je perds de vue la barque, elle s'est fendue dans les ciels oranges, tandis que l'ultime bout de la barque bascule de l'autre côté de la courbe, l'eau devenue glaciale, le ciel pourpre, mes muscles endormis, tous mes sens s'éveillent. Sur les orchidées et les arbres. Ainsi les orchidées, qui sont à elles seules des êtres vivants à part entière, ne se nourrissent pas par leurs racines et s'abreuvent par leurs feuilles. Les racines leur servent à s'accrocher aux branches des arbres. et sans vêtements fétichés. Quand on est abattu, on apprend tel un néophyte à vivre comme des orchidées, avec ses racines dans les cieux. C'est le mystère le plus grand. Comment grimper si haut sans perdre l'équilibre, en sachant que les chances sont petites? Comment se nourrir de son milieu sans être un parasite, en se nourrissant de l'air et de l'eau? Quand les géants tombent, les uns après les autres sans punition, quand le peu de forêt qui nous reste se détruit, comment penser à une vie avec autrui qui s'effondre avec chaque arbre tombé, l'énergie et l'illusion de ce monde?
Merci infiniment, nous ne répondons pas avec tout le monde à cette conférence. Merci.